Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue pour la 24e de Quoique, l'émission qui fait ce qu'elle peut. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 27 mars 2005, jour de Pâques et aussi jour de la Saint-Abib. Le sujet de l'émission d'aujourd'hui n'aura vraiment aucun rapport avec Pâques ni avec Abib, puisqu'il s'agit des laveries et autres lieux ou moyens de nettoyage. Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour, mais ça pourrait être quelque chose comme la grande nettoyage de printemps ou grand nettoyage de printemps, ça marche?
Oui, mais ça n'a rien à voir avec Pâques. Oui,
mais écoute, c'est Pâques, c'est printemps, machin, gna gna gna, on est dans le thème.
Mais t'es sûr que c'est pas la sainte enzyme?
Non, c'est la sainte Abib.
Ouais, mais enzyme, ça aurait été mieux pour la laverie.
Oui, mais moi j'y peux rien, c'est pas moi qui ai fait le calendrier, j'étais pas né encore à l'époque, mais
d'accord.
Sinon...
C'est nul, c'était vraiment nul en sein alors.
Donc c'est
oh, assez... je suis nul en sein,
c'est
écoute.
C'est la sainte Abib alors.
C'est la poêle qui se fout du chaudron, Flo. Voilà. Donc aujourd'hui, une petite nouvelle d'à peu près 1m80, elle a déjà fait quelques petites apparitions remarquées dans l'émission, elle partage sa vie avec un charmant jeune homme, elle est assistante des DRH, après ta gueule, après avoir suivi des études de communication et, accrochez-vous bien, de journalisme, nous ne pouvions évidemment pas nous passer de ses compétences, Ariane. Bonjour Ariane, alors tu vas nous parler de quoi exactement?
Bonjour,
après ce brillant
bon,
parcours?
D'abord, je sais pas si je vais parler.
Parle bien dans le micro, surtout.
On m'a dit que j'avais des gros coudes, alors je suis hyper vexée. Ça veut dire que je prends toute la place sur la table, donc je sais pas si je vais faire ma chronique finalement.
Ah bon, mais sinon, ça serait quoi si t'en faisais une?
Bon alors, supposons que je fasse quand même ma chronique, ça serait comme les laveries en elles-mêmes, l'histoire des laveries. Hein, c'est pas passionnant, je vais faire plutôt sur l'histoire du lavage et des machines à laver. Voilà, donc ça sera une rubrique
Très bien.
Voilà, je vais essayer de faire
donc,
mon mieux. Hein.
À noter que le charmant jeune homme, c'est moi. Pour info, pour faire un peu gala, point
charmant.
De vue, image du monde
et
c'est
tout. C'est bien ce que je disais, les pistounets à mort, quoi.
D'accord. L'important, c'est d'être toujours sur son 31, comme le disait Rocco Siffredi, célèbre acteur pornographique de la fin du XXe siècle. Et Flo respecte cet adage à la lettre. Pantalon délavé, trop long ou trop court, pull en laine, fait maison, chemise à carreaux ou à rayures. Mais je m'égare, nous ne sommes pas là pour parler de mode, mais de laverie. Alors, Flo...
Rocco, il fait pas du 31, il fait du 30, il me semblait.
Je sais pas, j'ai jamais mesuré, mais apparemment tu...
Il me semblait que c'était du 30. Oui, sinon, je vais parler d'un film qui s'appelle La Grande Lessive.
Et donc, un film qui n'est plus en salle et que tu n'as pas vu, si j'ai bien compris.
Non, mais dont j'ai retouché l'affiche, ce qui m'a fait tilt, parce que j'ai retouché l'affiche un petit peu avant ou un petit peu après, je sais plus, qu'on ait parlé du sujet, puis je lui ai dit, mais celui-là, mais c'est le sujet du film. Et
donc,
puis,
en fait, pour préciser un petit peu à nos auditeurs nombreux, dans la vie, tu
et
retouches, tu restaures des affiches.
En fait, normalement, mon truc, c'est de restaurer des films. À défaut, là, en ce moment, je retouche des affiches de films. Et comme ça, ça permet de réinventer des scénarios. Donc, je vous comprendrai, enfin, des scénarios. Et ça me permettra de vous raconter ce que j'ai compris de La Grande Lessive. Et comment j'ai envie de le voir. Et j'espère vous donner envie de le voir vous-même.
Bah oui, bah écoute, moi, je l'ai vu. Hein.
Bah
je
oui,
crois
je
que
sais
je suis
bien,
seul
mais
à cette table.
Je compte assez
vu.
Fort sur toi. Nous allons militer pour que Moki nous remette son film parce que c'est à lui.
Il y a très longtemps que je l'ai vu, mais je m'en rappelle un petit peu.
On va militer pour que La Grande Lessive revienne.
Militons. Mmh.
Toujours propre comme un sou neuf, bien qu'il ne soit plus très neuf, il va nous parler d'un auteur à multiples talents, avec un nom imprononçable. Numa. Donc Numa, ça c'est prononçable, c'est l'auteur dont tu vas nous parler.
Ah oui, qui est chilien et qui s'appelle Jodorowsky.
D'origine.
Oui, tu l'as dit dans le bon sens, bravo.
D'origine, ben d'origine chilienne.
C'est chilien, Jodorowsky, comme nom?
Ben non, ses parents étaient un petit peu russes, ukrainiens.
Ouais.
Ah, je me disais aussi.
À ne pas confondre avec Alejandro Jodorowsky, de tous les gens qui ont des problèmes de prononciation.
De dyslexie.
Voilà, c'est vrai.
Voilà, et donc le livre tout particulièrement, donc c'est un roman et ça s'appelle L'Arbre du Dieu pendu aux éditions Métellier.
Donc c'est un romancier, scénariste, un réalisateur, un scénariste
de bande dessinée, un auteur de théâtre, un metteur en scène de théâtre, un acteur, et j'ai dû oublier des trucs.
Donc Pété du bulbe.
Un auteur aux multiples talents.
Et un maître du tarot.
Ah bah ça c'est très bien.
Un maître des tarots, pardon, parce que je crois bien qu'il y en a plusieurs. Un maître des tarots de Marseille, je sais pas si c'est vraiment de Marseille, mais c'est un maître des tarots.
Donc, bah, très bien. Donc, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, une équipe un petit peu réduite, parce que nous ne sommes que quatre. Ça suffit pour faire une belote.
C'est Pâques.
C'est Pâques, oui, oui. Donc, Béatrice est partie dans sa Bretagne natale, Cré aussi. D'ailleurs, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu aussi, Cré. Hein.
Ben, on l'a perdu de vue.
Donc, reviens-nous vite, tu nous manques.
Reviens, Cré, Zoudre.
Voilà, et Darty et Valérie sont en instance de faire un petit frère ou une petite sœur à ma filleule, donc ils ne peuvent pas se déplacer.
Oeufs, mais bon.
Ben ouais, c'est comme ça.
Non, pas de le faire, de le recevoir.
De le recevoir, là il y a la grande cigogne qui est sur le point de passer. Oui, parle bien dans le micro.
Bah oui, mais il y a Flo qui me pique le micro, comment tu veux que je parle dedans?
Bah tu,
j'ai une grosse tête aussi.
Tu mets ta main sur le micro, tu le prends.
Voilà.
Grosse tête.
Et tu lui donnes un coup de coude.
Donc sinon, on va continuer dans une petite habitude qu'on a pris depuis 2-3 émissions, c'est-à-dire de faire une magnifique chanson.
J'avais oublié.
Ah ouais, La chanson.
Alors la chanson qui...
ouais, elle est bien, moi je l'ai entendue jusqu'au bout.
So sexy.
Qui nous a donné le thème, puisque le texte de la chanson était écrit avant l'émission. Donc c'est à cause de cette chanson qu'on parle des laveries.
Et moi, je n'en parle pas, dès là-bas.
Non, en plus. Donc, sur des textes de Numa, une musique de Ton Vert, et interprétée par Ton Vert, des costumes de Donald Carwell et un décor de Roger Hart, ou à moins que ce soit le contraire.
Et Jean-Marc Thibault aussi.
Et Roger Pierre.
Et oui, bien entendu.
Donc, le nouveau tube de l'hiver 2005, et du printemps, pardon.
Un profit, c'est pas encore voilà. Printemps, justement, officiellement.
Ça s'appelle Sylvie Laverie, et c'est parti. Je m'appelle Sylvain Demi, j'ai rendez-vous avec Sylvie, j'attends au bistrot les amis. Je suis en avance pour la laverie, pour passer le temps, je me prends un demi, pour passer le temps, je me prends un demi. Sylvain, Sylvie, Sylvia, au rendez-vous Sylvain. Sylvie, Sylvain, Sylvia. Sylvie, Juju, Sylvain, Juju est venu, Sylvia fut tout émue de Juju. Sylvie rougit, Juju fut tout émue aussi. L'appel de la laverie, je triais tout avec Sylvie, le blanc fragile, le noir aussi. La vigilance, une heure et demie, pour passer le temps, je me prends un demi, pour passer le temps, je me prends un demi. L'appel du train de nuit, j'essaierai tout avec Sylvie, la vente au bistrot, les amis. Coexistence, une heure et demie, pour passer le temps, je me prends un demi, pour passer le temps, je me prends un demi. Sylvain, Sylvie, Sylvia, au rendez-vous Sylvain. Sylvie, Sylvain, Sylvia. Sylvie, Juju, Sylvain, Juju est venu, Sylvia fut tout émue de Juju. Sylvie rougit, Juju fut tout émue aussi. Patin, Sylvie, j'essaierai tout avec Sylvie, j'attends au bistrot les amis. Sur une planche, une heure et demie, pour passer le temps, je me prends un demi, pour passer le temps, je me prends un demi. Je me gèle à la mairie, je me marie avec Sylvie, on a racheté la laverie. Je trie mes slips, chaussettes aussi, pour casser le temps, je me prends un demi, pour lasser le temps, je me prends un demi. Sylvain, Sylvie, Sylvia, au rendez-vous Sylvain. Sylvie, Sylvain, Sylvia. Juju, Sylvain, Juju est venu, Sylvia fut tout émue de Juju. Sylvie rougit, Juju fut tout émue aussi. Bravo, bravo à eux. Un magnifique chanson.
Extraordinaire interprétation, c'est transcendant.
Ah, n'est-ce pas, hein. C'est parce que j'ai fait à la recherche de la nouvelle star et on l'a pas trouvée.
Ah, t'es perdu alors.
Ouais, mais faut se méfier quand même parce que j'ai l'impression qu'il y a Numa qui écrit les textes et qui a les chevilles qui commencent à enfler parce qu'il y a des gens dans l'assistance là qui connaissent déjà les paroles par cœur, donc ouais, ça y est,
alors
ils
que c'est même pas diffusé.
On va être beau alors, grosse cheville, gros coude, gros melon.
Donc vous aurez pu remarquer aussi que pour la première fois depuis tout ce temps-là, une vraie guitare. Alors est-ce que c'est un bien ou un mal ?
Si, encore.
Hein, c'est une vraie guitare.
Hein, c'est une vraie guitare. C'est pas forcément un vrai guitariste, mais...
C'est une vraie guitare.
C'est une vraie guitare.
Avec des cordes.
Voilà.
Ouais.
Et accordée.
Et accordée, oui. Accordé, oui, avec un accordeur chromatique à 440 pour le LAD. Enfin, je parle pour les spécialistes.
Tu voulais pas dire euro ?
Non, c'est pas en euro, non. T'as joué de la guitare, toi, un petit peu, Flo ?
Oui, mais moi, j'ai jamais eu droit à un accordeur comme ça. J'étais ouais. Puni, j'étais au diapason. Et à la sonnerie du téléphone, bah, ça marche pas.
Bah écoute, la prochaine fois, c'est toi qui viendras jouer de la guitare.
C'est pas sûr.
Bah on verra. Donc bon, maintenant qu'on a bien rigolé, on va passer à des choses plus sérieuses.
Ah bah oui.
Le début de l'émission pour de vrai, c'est parti. Donc Ariane, tu vas nous parler dans l'histoire du lavage, des laveries et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça
et
à
tout
toi.
Ça. Voilà, donc l'histoire du lavage et de la machine à laver. Alors je vais commencer par le lavage. Je vais vous faire une magnifique lapalissade. La plus ancienne forme de nettoyage connue, bien évidemment, c'est l'eau. C'est malin.
Ah oui, c'est malin.
Bah oui, c'est malin. Enfin, on s'est quand même rendu compte que l'eau servait à laver. Bon. Quoique dans l'Antiquité et notamment dans l'Égypte, on connaît déjà le savon, donc c'est déjà pas mal. Et on retrouve chez Pline l'Ancien donc les premières traces écrites, alors qui donnent pas forcément la recette entière du savon, mais qui expliquent d'où vient le mot sapo, donc qui a probablement donné le mot savon. C'était un produit qui avait été inventé par les Gaulois, donc qu'on faisait avec du suif et de la cendre, les meilleurs étant le suif de chèvre et la cendre de hêtre. Et les Gaulois s'en servaient pour se teindre les cheveux en roux. Donc ces espèces de ballots avaient inventé le premier shampoing décolorant, en quelque sorte. Mais ils ne s'étaient pas encore rendu compte que ça pouvait servir à laver autre chose que leurs cheveux.
C'est déjà un bon début.
Mais c'était déjà voilà un bon début. Donc en fait, à cette époque-là, que comment on lave concrètement ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon micro, là ? Comme ça ?
Bon, parle bien dans ton micro.
Je vais essayer de... Voilà. Bon, c'est mieux comme ça ?
Comme je t'expliquais hier soir.
Pose-le.
Pose-le sur ton menton.
Si
qu'est-ce qu'on t'a appris dans ton école de journalisme ?
Je faisais pas de la radio, je faisais du. Puis j'avais des micros un peu plus. Enfin, c'est pas grave.
Un peu plus gros, c'est ça ?
Un peu plus gros, oui. J'avais des bonnettes dessus, on pouvait cracher dedans, tout ça.
Ah, la bonnette.
La bonnette, et eh oui, la bonnette.
Ah oui, oui, bon. L'apprentissage, enfiler la bonnette pour éviter les maladies.
Et voilà, bon. Donc, à l'époque des Gaulois, on foule le linge aux pieds pour le nettoyer avec de l'urine. On se demande si ça ressortait pas finalement plus sale que ça n'était rentré dans le foulon. Donc, qui était le baquet qui servait à laver, et les gens qui faisaient ça s'appelaient les fouloniers. Donc, on pataugeait dans l'urine au-dessus.
Et c'est le même après qui allait presser le raisin avec leurs pieds aussi?
Eh ben, j'ai effectivement un doute sur le fait du raisin, puisqu'on retrouve dans certains écrits, et notamment en Angleterre, où on dit que le cuvier individuel, donc ce qui servait à laver la lessive, servait aussi parfois à brasser la bière des domestiques.
Mmh. Mmh. Non, mais tu sais que l'urée que tu as dans l'urine, ça décrasse, mais sérieux, quoi. Tu peux nettoyer des tableaux comme ça qui sont un peu jaunis, tu pisses dessus, ça les décrasse assez fort. Il faut avoir une urine assez chaude quand même.
Pour que les conservateurs, ils vont être longtemps au Louvre.
Je sais pas, j'ai pas de tableau.
Excusez-moi, monsieur, mais il était un peu sale.
Non, c'est surtout l'ammoniac aussi qui décrasse. Il n'y a pas que l'urée, c'est surtout l'ammoniac.
Et, voilà. Et c'est connu si tu as une blessure et que tu n'as pas de désinfectant, pisse-toi dessus.
Bah écoute. J'essaierai. Hein.
Mais après, c'est vrai que si t'as une blessure à l'épaule,
c'est pas facile. On est bien d'accord. Bon, ouais, ensuite, ils sont donc un peu moins barbares au Moyen Âge, puisqu'on change de technique de lavage parce que les tissus changent. Donc apparaissent les tissus, on va dire le tissage végétal, c'est-à-dire tout ce qui est chanvre, coton, lin et soie qui remplace
le chanvre qui fera
qui remplace la laine. Oui, c'est mal.
Surtout, tu te laisses pas perturber.
Non,
si
je vais essayer. Donc, comme c'est un peu trop, ce sont des tissus un peu trop fragiles pour l'urine, on se met à les lavandières remplacent les foulonniers et la cendre essentiellement remplace l'urine.
Et avec la cendre, on peut aussi nettoyer les escargots. Alors donc, on prend une grande marmite d'eau, on met de la cendre, on met
les
escargots dedans, on fait bouillir et ça nettoie les escargots.
Super, non mais c'était intéressant quand même.
Attends, c'est quand même, c'est un propos culinaire, c'est hyper palpitant pour tous
les
gens
qui savent pas nettoyer
les escargots.
Ou alors qui le font à la main et c'est vraiment super sûr de le faire un par un à la main.
Je les achète tout nettoyer les escargots, c'est
des petits gris.
Pourquoi ils sont gris? Parce qu'ils sont nettoyés avec de la cendre.
Avec de la cendre, voilà. Bon.
Et qu'ils ont bu.
Picard, il fait très bien les escargots tout près.
Je croyais qu'on ne devait pas citer de marque.
Le CSA ne nous écoute pas encore pour l'instant. De toute façon, personne ne nous écoute.
Ouais. Alors,
de toute façon, on encule le CSA.
Non.
Je vais pas y arriver. Et c'est pas possible, tu les as payés pour qu'ils me pourrissent ma chronique là.
Non,
c'est toi qui a fait le repas, c'est à quoi qui jeûnait aujourd'hui.
Oui, donc en fait, avant de commencer l'émission, nous avons légèrement déjeuné.
Légèrement.
Grande force d'eau.
Ouais, voilà.
Plein d'eau. Réjouissante.
C'était grande lessive le repas.
Ne lui rends pas le micro. T'as une chance incroyable, elle a pas de micro. Donc lui donne pas.
Garde-le.
Faites gaffe ou je continue à toute allure sans articuler. Bon, donc au Moyen Âge, le secret du blanchissage, c'est super difficile à
articuler, oui.
Est essentiellement tenu dans les couvents. On lave à la rivière. À cette époque, les lavoirs apparaissent quand même beaucoup, beaucoup plus tard, on va dire pas avant le 16e, le 17e, voire plus tard. Enfin, bon, pour ce qui est des en commun, quoi, parce qu'après on peut laver chez soi, mais enfin ils se lavent quand même pas bien, voilà. Qu'est-ce qu'on lave? Alors on lave essentiellement le linge de maison, c'est pas parce que je te regarde pas que je te vois pas, le linge de maison et puis les vêtements du dessus, c'est-à-dire ceux qui se voient.
Bah c'est pas con.
C'est pas bête.
Ouais, mais enfin vous imaginez un peu les odeurs, on changeait jamais de chemise de dessous, lâche le micro.
Henri IV, il demandait est-ce que les nanas gardent une petite odeur agréable. Alors tu vas pas quand même nettoyer leurs petites culottes des fois que tout d'un coup ça sentirait l'Ariel, quoi, merde.
Mais ils en portaient pas de culottes à l'époque.
Et ils avaient pas d'Ariel.
Il faut savoir que
on n'a pas le droit de citer de marque de cigarettes mentholées.
Il faut savoir que il faut attendre le milieu du 19e siècle avec la diffusion des sous-vêtements en coton à bon marché pour qu'on se change plus souvent, donc qu'on lave plus souvent
à partir
les sous-vêtements.
Du 19e siècle.
1850, oui.
Eh bien, attendons l'ouverture du bon marché.
Voilà, c'est un peu ça, pour qu'on puisse laver plus souvent les vêtements de dessous. Donc, les vêtements de dessous n'étaient jamais lavés. Donc,
la propreté est venue avec le début du capitalisme, en fait, et de la consommation, la croissance.
On peut voir ça comme ça.
Ouais, bon. Mais moi, j'ai pas grandi.
Comment on lave, justement? J'ai commencé à parler de lessive un petit peu. On fait une lessive deux fois par an, en tout cas dans les maisons riches où on a les moyens de changer.
À quelle époque?
À peu près à cette époque.
C'est-à-dire
j'étais en train de dire 16e, 17e.
D'accord. Bon.
Alors, on fait des bons en avant, parce que si je vous le fais année par année, on va pas s'en sortir. On fait de lessive par an, mais ça a duré très tard. Ça a duré jusqu'à ce que la machine à laver se développe.
1850.
Non, jusqu'à ce que la machine à laver se développe.
Ah.
Mais oui, mais
c'est
si
quoi,
vous ne laissez
c'est
pas
biologique,
continuer.
C'est biologique, c'est.
Mais non, mais écoutez, et vous.
C'est l'évolution naturelle.
Et vous saurez.
C'est l'effet
vous essaurez.
C'est quoi?
Et vous essaurez, exactement.
On attend la merde.
Donc la lessive, oui, c'est deux fois par an. Et une lessive, ça dure 3 jours. Hein, quand on pense que maintenant, c'est 2 heures pour faire une lessive. Il y a première journée, le trempage. Ensuite, le coulage. Et puis pour finir le rinçage et puis on étend les.
Et c'est quoi le coulage?
Alors le coulage, c'est la diffusion d'eau chaude sur le linge. C'est la diffusion d'eau chaude sur le linge pour pouvoir le laver. Voilà.
Donc ça c'est le trempage.
Non, le coulage.
Le coulage. On trempe avec de la cendre puisqu'on lave encore avec de la cendre à l'époque. Ensuite on coule et puis pour finir on rince, on essore et on étend sur des fils. Donc on lave deux fois par an à l'arrivée du printemps et puis en septembre. Les familles qui n'étaient pas aisées n'avaient pas les moyens, effectivement, de laver leur linge seulement deux fois par an. Donc, dans ces cas-là, c'était le lavoir, même en hiver. Et donc, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui ont été traumatisés à vie, parce que pour se réchauffer les mains, en hiver, l'eau, elle est pas chaude, les femmes se pissaient sur les mains. Voilà. Donc là, l'urine change de, on va dire, de destination, c'est-à-dire qu'au lieu de servir à laver le linge, elle sert à se réchauffer les mains.
Mais c'est toujours une histoire de
d'urine. Mais c'est toujours, effectivement, une histoire d'urine. Bon. Donc on lave quand même, c'est ce que je disais, encore avec des moyens, des produits précaires, tant et si bien que en 1688, Colbert codifie la fabrication et l'utilisation du savon. Il faut savoir que le monopole du savon de Marseille remonte, lui, au XIIe siècle. Donc on voit apparaître quand même le savon, mais ça reste quelque chose de très cher, donc on s'en sert pas énormément pour laver. Donc je ne sais pas si le linge était vraiment si bien.
Oui, mais ça nous le savon.
Oui, de Marseille. On fait encore un petit bond en avant avec le métier de blanchisseuse qui se développe en tant que véritable métier et appellation surtout au XVIIIe siècle. Il faut savoir que tout ce qui était donc tout ce qui touchait au linge, donc les blanchisseuses, les laveuses et les repasseuses étaient beaucoup mieux payées que tous les autres domestiques. On considérait que c'était important. Le lavage du linge, alors probablement parce que le linge était plus fragile, donc il fallait faire ça correctement. En 1895, à Paris, un tiers à un cinquième des habitants sont occupés dans l'industrie du blanchissage. Ça fait quand même beaucoup.
Je voudrais préciser quelque chose pour nos auditeurs bêtes, c'est que toutes les dates qu'elles donnent, c'est après Jésus-Christ.
Oui.
C'est important. Certains auditeurs un
c'est
peu
important.
Bêtes. Et il y en a. Hein, vous vous reconnaîtrez. C'est pas avant Jésus-Christ, c'est après Jésus-Christ.
Toi, tu vas faire chuter le taux de téléchargement, ça va être ta faute. Hein.
Moi, je fais rien chuter du tout, mais enfin bon, continue, te laisse pas distraire.
C'était effectivement
Ariane. C'est Ariane.
Oui. Tu veux que je te l'écrive? Non, c'est bon. Bon, ensuite, on passe à l'histoire de la machine, puisque grosso modo, je vous ai fait le lavage à la main. Comment est-ce qu'on lavait tant qu'on n'avait pas de machine? Donc, il paraîtrait que ce serait le symbole mythique de l'émancipation de la femme. Quelque part, je veux bien le croire, parce que quand on voit qu'il fallait effectivement 3 jours pour faire une lessive, ça fait quand même gagner du temps. Voilà. Alors, le premier brevet pour une machine à laver mécanique, donc il fallait quand même tourner la manivelle, est délivré le 28 mars 1797 à un monsieur Nathaniel Briggs aux USA. Mais il faut quand même attendre 1870 pour que l'idée du blanchissage automatique ressurgisse.
Oui.
C'est bon, t'as fini.
C'est passionnant, hein.
Bah oui, mais nous on écoute, on a.
C'est-à-dire que j'allais dire oui, effectivement, tu peux peut-être trouver ça pas tout à fait passionnant.
Si,
Si, on attend la suite.
Bon.
Mais il comprend pas, c'est pas une femme en fait. Il peut pas comprendre.
Bah écoute, tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est justement ce que je voulais dire. Mais Dieu, je comprends que d'aucuns ne trouvent pas forcément intéressant l'histoire des machines à laver quand ils se sentent pas tout à fait concernés. Voilà.
Bon, arrête, tu fais ta vedette là.
Tu fais la vedette, bon. C'est malin. Heureusement que j'ai pas.
Ça, c'est fort.
Heureusement que j'ai pas Denise dans mes autres prénoms parce que sinon ça serait le pompon. Donc il faut quand même encore 30 ans de mise au point. Et les premiers lave-linges fonctionnaient au gaz. C'est-à-dire que de toute façon, les femmes, pour l'instant, n'avaient pas gagné grand-chose puisque c'était une véritable gymnastique que d'aller allumer le gaz sous les machines à laver.
Ouais, tu veux dire qu'au lieu de mourir d'une pneumonie, elles meurent étouffées par les gaz, etc. Bravo.
Asphyxiées. Voilà, on changeait un peu de maladie. Alors, on arrive. Aux laveries, quand même, je vais en parler un tout petit peu. Les premières laveries industrielles apparaissent vers 1920, en même temps que les premières machines automatiques. Et au premier salon des arts ménagers, oui, parce que ça existe, en 1923, c'est la machine à laver qui est la reine du salon. Mais les gens se méfient parce qu'il paraîtrait que la machine à laver, ça use le linge. Alors franchement, je vois pas bien.
Le lavomatique bouffe le linge.
Oui, le lavomatique mange des chaussettes, en fait. Surtout les chaussettes, où en général, on n'arrive plus à faire des paires une fois qu'on est passé au lavomatique. Oui. Là, je parle d'usure. Donc, il faut attendre 1939, donc c'est l'époque plutôt de nos grands-mères, pour qu'il y ait un succès définitif du produit et surtout que la machine fasse la totalité des opérations. Le lavage, le rinçage et l'essorage avec l'eau qui rentre et qui sort. Tout dans la même machine.
Tout ça pour bien nettoyer les serviettes Vichy.
Et tout ça pour bien nettoyer les serviettes, voilà, les serviettes Vichy.
Et les nappes.
Et les nappes.
Vichy.
Et les petites culottes.
Vichy.
Aussi.
Et les chaussettes, Vichy.
Si ça peut te faire plaisir.
Vichy partout.
Vichy partout.
Vichy, voilà. Oui, bah, bon.
Non.
La véritable démocratisation de la machine à laver, c'est en 1950, à peu près en même temps que l'apparition des détergents synthétiques. Et en 1954, 10% des foyers seulement sont équipés en machine à laver.
Le linge.
Le linge, on est bien d'accord. Ah, ouais. 1950, c'est aussi l'apparition des laveries automatiques dans les grandes villes, pour ceux donc qui n'ont, pour les 90% restants, hein, ceux qui n'ont pas de machine à laver. En 1967 apparaît la fameuse Calor 580. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette magnifique petite machine bleue en plastoc
avec
la petite lessiveuse à chaussettes.
La lessiveuse à chaussettes et à culottes.
Mes parents en avaient une.
Un plateau rotatif dans le fond de la machine.
Tout à fait. Mes parents en avaient une. C'était une merveille.
C'était une merveille. Si on se demandait bien ce que ça pouvait laver, mais enfin c'était rigolo. C'était pratique en vacances. Voilà, enfin c'était surtout pour
je dois avouer que moi je l'ai toujours vue dans le grenier.
Dans le grenier, oui, mais tu vois, c'était bien la preuve qu'elle ne servait pas à grand chose. Et en 1983, on voit apparaître les premiers sèche-linges. Voilà.
C'est-à-dire de l'air chaud.
Exactement.
Dans une boîte.
Dans une boîte. Avec un tambour qui tourne.
Oh, c'est...
Non, parce que les premiers c'était lave-linge d'un côté et sèche-linge de l'autre côté. Maintenant on arrive à tout mettre dans la même machine.
Et c'est beau parce que c'est la fin d'un traumatisme. Moi j'ai été traumatisée par une écharpe qui avait séché, gelée, congelée sur le fil et que tu pouvais la promener toute droite et toute petite. Ça m'avait traumatisée de voir une écharpe longue rester droite comme une échelle. J'en pouvais plus là.
Mais personne t'est obligé à la porter pendant qu'elle était encore gelée quand même.
Tu peux faire l'aviateur.
Non, mais je trouvais ça incroyable quand même. Je pensais pas qu'un bout de tissu mou d'habitude pouvait se tenir droit si tu veux. C'était
parce que t'étais encore jeune.
Alors, pour conclure, la machine à laver, c'est quand même une histoire culturelle. C'est l'histoire de l'intime et du social. Le chiffre.
Répéter.
Eh ben, parce que l'histoire de l'intime et du social, c'est-à-dire que en 1994, hein, j'ai pas de chiffre plus récent, 85% des foyers sont équipés de machines. C'est-à-dire que maintenant, on lave son linge sale en famille et plus au lavoir. Elle était fastoche. C'est finalement plus la laverie automatique qui a remplacé le lavoir communal. Donc effectivement, c'est là où on est sur le social. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez lire l'Odyssée d'Homère où on trouve la plus ancienne description de lavage. L'Assommoir de Zola où on parle beaucoup de blanchisserie. Et l'Histoire de la machine à laver de Queen Delaunay qui est une approche sociale, économique et ethnologique.
Bravo,
ouais,
hein.
Et n'empêche que je veux dire que malgré tout, quand même.
Tu veux encore nous casser un petit peu les couilles,
absolument.
Vas-y.
Absolument. Même si les lavoirs ont disparu et tout, et ben il reste quand même une certaine solidarité dans les lavomatiques. Et si vous êtes tous dans une ville, et ben c'est toujours encore le meilleur moyen de faire des rencontres, si on fait des rencontres incroyables là-dedans. D'après les témoignages que j'ai eu de ma maman qui avait
elle
été traumatisée.
Elle a rencontré ton papa là-bas.
Non, elle avait été traumatisée justement par cette dame qui avait l'âge d'être sa mère et beaucoup plus vieille, qui justement elle se faisait pipi sur les mains pour se réchauffer les mains, regrettait la solidarité des lavoirs. Mmh. Parce que là-bas il y avait une solidarité très très forte. Bon, maintenant il y a une espèce de solidarité genre t'aurais pas vu ma paire de chaussettes parce que c'est bizarre, cette chaussette-là ne m'appartient pas, etc. Ou comment ça marche le truc pour récupérer les cives. Mais il reste une certaine solidarité dans les lavomatiques.
Bah d'accord.
Bah oui, hein, c'est nos futurs nouveaux bistrots vu que maintenant Sarkozy nous interdit de boire.
Merci beaucoup les filles.
Pendant que vous buvez, faut bien qu'on s'occupe. Hein.
Donc un tonnerre d'applaudissements. Bravo, bravo, bravo pour Ariane. Excusez-nous pour ce petit intermède un petit peu long, mais nous avions quelques difficultés techniques pour attraper les mouchoirs et la bouteille de marc. Donc maintenant, nous allons passer à Flo, qui va nous parler d'un film qu'elle n'a pas vu. Donc ça ne pourra pas être pire que d'habitude.
Ah non, ça va pas être pire, du coup, j'ai jamais fait autant de recherches sur un film.
Eh ben écoute, quand t'auras fini d'écrire des saloperies à ton mec,
c'est à toi. C'est plein de morts, ce que je lui dis.
Donc ouais, tu peux commencer.
C'était juste que l'intermède, effectivement, c'est la preuve de l'inégalité des hommes et des femmes face à la machine à laver. C'est qu'autrefois, on s'embêtait la vie à laver les mouchoirs. Maintenant, il existe des mouchoirs en papier, c'est quand même beaucoup plus pratique. Mais Numa vient de nous donner un exemple flagrant des gens qui ne savent pas que les mouchoirs en papier existent.
C'est de ma faute, c'est parce que je refuse de nettoyer les vieux machins à carreaux qui sont cracra en fait.
Ouais, donc d'une part, Flo ne veut pas laver mes mouchoirs en tissu parce qu'elle trouve que c'est même vulgaire et que ça fait vieux provincial.
C'est super dégueulasse. C'est pas que ça fait vieux provincial, mais c'est quand t'arrives avec tes trucs tout gluants, c'est vraiment
pas. Si, c'est ça.
Moi, quand je suis arrivé donc, à Paris, je sortais mes petits jus tout dégueulasses et ça faisait toujours un effet.
Un effet bœuf.
Et j'ai fini par faire comme les autres, me mettre au Kleenex.
Ouais, mais moi, je voudrais bien pouvoir faire un effet bœuf.
Ouais, donc Flo...
Après l'effet bœuf...
Flo, elle va vous parler de La Grande Lessive.
Donc, un film de Jean-Pierre Mocky.
Avec Bourvil, Francis Blanche, Romain Dubillard, Jean Tissier, etc. Tourné en 1968. Enfin, sorti en 1968.
Articule.
Je fais ce que je peux, j'articule. Je fais des gros efforts, j'articule. Merde. Enfin bon, ce film, en fait, ton frère vous l'a dit, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai pas vu, et en fait, ça m'est venu comme ça, un jour, je retouchais des affiches, pouf pouf, et puis je tombe au milieu d'un truc, et alors...
Ça y est, on est parti pour 20 minutes.
Absolument, il y en a peut-être même 30, on ne sait jamais. Hein. Il y avait, imaginez un fond, un ciel, etc.
À tout à l'heure.
Un paysage, et au milieu, un champ d'antenne télé, un petit peu une tour Eiffel, machin, et au-dessus, c'est loin au-dessus, un drapeau de pirates. Avec dans le drapeau de pirate entremêlé les têtes de Bourvil et de Francis Blanche et en guise de tibia des antennes télé et là je me suis dit oula mais un truc comme ça doit pas être mal là ça doit
ça
être...
a l'air bien
ça a l'air d'arracher assez fort ça s'appelle La Grande Lessive et
fort.
Ça a l'air arrache très fort mon ami et alors avec un titre comme ça là ça ressemble vachement à ce que moi je pense de la télé. Et bon, quoi. Alors, j'ai commencé à m'imaginer ce que pouvait être éventuellement le scénario connaissant les idées de Mocky, quoi. Et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça peut être? Et alors, j'imaginais Blanche et Bourvil en pirates des ondes en train d'hypnotiser une foule de spectateurs et de faire à la ville des choses complètement incongrues, etc. Enfin, bref, quoi. Ça me faisait assez rire. Et puis, quand on a parlé de cette émission, puis je me suis dit, bon, je vais peut-être me renseigner et voir un peu à quoi ressemble le film. Et puis c'était pas ça.
Arrête de te balancer sur ta chaise, ça grince.
C'est moi qui grince ? Ah bon, alors j'arrête de grincer. Et donc en cherchant un peu à propos du film, j'ai découvert que c'était pas ça. En plus, ton verre m'a donné la fin du film très content en me disant « Ah oui, c'est le film, machin !» Puis je l'ai pas vu.
Nya, 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 nya.
Voilà, nya, 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 nya. Donc,
c'est une bonne fin de film.
Pour une fois.
J'éviterai donc vous donner nia nia nia. Enfin bon, je vais vous donner le résumé qui en fait ne s'avère pas du tout être ce que j'ai compris, quoique je trouvais ça assez rigolo comme idée aussi. En fait, là, dans ce film, Bourvil est prof et il décide de passer...
Prof de quoi
je ne sais pas, j'ai trouvé dans un... Il m'a semblé lire quelque part qu'il était prof de latin, mais vraisemblablement dernièrement, mes neurones ne fonctionnant pas très bien, j'ai jamais retrouvé ma source disant qu'il était prof de latin.
Dernièrement, ça monte à 3-4 ans. C'est...
Non, ça fait 2 semaines que mes neurones ne sont pas tout à fait en place, mais c'est des choses qui arrivent. Les auditeurs de Quoique peuvent comprendre, je pense. Et donc Bourvil, prof, décide de lutter contre le fléau, le grand fléau de tous les temps, déjà en 1968, qui s'avère être la télévision, à cause de laquelle tous les élèves dorment en cours parce qu'ils regardent cette fameuse télévision toute la nuit.
Ah, c'est de sa faute aussi.
Non, le soir, pas toute la nuit.
Ouais. Ah non, là, d'après ce que j'ai lu, c'était toute la nuit. Enfin
non,
bon,
non,
c'est
toi,
tu as vu le film.
Mais à l'époque, ça n'émettait pas. La fin des programmes devait être située aux alentours de 22h, donc c'était
pas
possible.
Oui, c'est parce qu'avant, les élèves se couchaient vers 8h et à cause de la télé, ils se couchent vers 10h, 10h30.
Et il semblerait d'ailleurs que c'est de la faute à Jean-Pierre Mocky si les télévisions américaines sont obligées d'avoir une sécurité pour enfants qui fait que lorsque le parent quitte la pièce, il peut, en appuyant sur un bouton, bloquer certains programmes.
Et tu manges ma chronique.
Ah bon?
T'as fait pareil avec moi, t'as vu, c'est pas agréable.
Moi, je fais ça. Non, jamais je fais ça, moi. Absolument pas. Enfin bon, quoi. Donc, du coup.
Mais oui, mais c'est moi qui te l'ai raconté. Alors. Mais,
non, j'ai retrouvé après. J'ai retrouvé des traces plus loin. Et du coup, avec Miss Sonar.
Si t'as retrouvé des traces, c'est parce que c'était pas bien lavé.
Ah, c'est possible. Ça, c'est la faute du Dumas. Il s'est pas nettoyé les affaires.
Non, c'est la machine qui les lave. Moi, je sais juste pas trier.
Donc avec Miss Sonar, le prof de gym et un certain Benjamin, chimiste occasionnel, ils décident de se lancer dans une grande opération de sulfatage d'antennes
Benjamin
collective.
Castaldi déjà ?
Non, Benjamin tout le court, il n'a pas de nom de famille ce jeune homme.
Ah, c'est juste Benjamin ?
Ah ouais, bah écoute, toi qui as vu le film, mon tu dois pouvoir aller plus loin. Non, ce n'est pas mon oncle Benjamin, j'ai pas vu le film, mais je peux vous assurer un truc, c'est qu'il n'avait pas la tronche de Brel avec une veste rouge. Et donc, ils décident de sulfater les antennes collectives pour déclencher des orages magnétiques et brouiller les émissions.
Les émissions
de télé.
Ah.
Et oui, comme ça, hop, pof, tous les mots au pieu. Alors, bon, vous me direz, on n'entend pas parler de ce cher Francis Blanche, vraisemblablement, qui tenait le rôle d'un docteur loupioc, dentiste sans scrupules. Le méchant qui avait pour but de dénoncer nos amis sulfateurs. Et en fait, qui se fait coincer, qui, pour ne pas se faire coincer, est obligé de foutre le camp avec nos amis sulfateurs, d'où sa présence sur l'affiche. Enfin bref, en fait, serait à ton verre de nous parler de ça, surtout parce que lui a vu le film, donc il devrait
non,
pouvoir compléter.
Non, mais moi, je fais pas de chronique de cinéma sur quoi que ce soit. Tu te démerdes.
Toi, tu as vu ce film, donc tu es ce soir mes yeux à propos du film pour compléter ce résumé. Tu peux compléter au résumé ou tu peux pas compléter au résumé? Tu m'en parlais
non.
bien là
tu
au téléphone.
Tu feras pas d'effort. Hein.
Non.
Oh non, tu me parlais tellement bien du film.
Si je faisais une chronique de cinéma, moi je parlerais de films que j'ai vus, c'est tout.
Mais j'aurais pu parler d'autres films que j'ai vus, mais j'étais pas dans le thème. Alors que là, celui-là, avec son thème,
oui,
avec son titre, il était à mort dans le thème.
Ça aurait bien été la première fois que t'étais pas dans le thème.
On commence à l'autre. Mais qu'est-ce que c'était mauvaise langue?
Pas du tout, parle bien dans le micro quand tu
dis ça. Tu auras pour gagner du temps sur ta chronique ou quoi?
Non, absolument pas. Bon, enfin bref, quoi. Donc ça, c'était le film de. Et ce film est sorti en 68. Et donc il faut noter qu'il est déjà d'actualité.
T'es en train d'essayer de nous expliquer que le lessivage de cerveau via la télévision n'est pas un sujet nouveau?
Non, c'est à première vue. Ça a énervé des gens il y a assez longtemps. Voilà, c'est la faute de Mocky et tout. En fait, il est sorti en 68. En 68, Mocky commençait déjà à être alarmé, affolé par la télévision. Ce film sort en 68. Le tournage a lieu à la fin des événements de mai 68, au studio d'Épinay Éclair. Ça veut dire la Épinay-sur-Seine, là, juste au nord de Paris. Enfin bref, donc à première vue, ça devait être assez folklore comme fin de tournage. D'après ce que j'ai vu, il y a eu procès autour du film. Parce que dedans.
Procès pourquoi?
Mais j'ai pas trouvé. Mais Jean Poiré fait président et président de l'ORBF. Alors pour les petits
peut-être
jeunes, il y a un truc qui s'appelait l'ORTF à l'époque, et donc on pense que
c'est une télévision avec une chaîne.
Voilà, les gens auraient pu être éventuellement froissés enfin par les actions de Francis Blanche. Mais ça, c'est encore, si vous n'êtes pas content, c'est de la faute de ton verre, parce qu'il veut pas nous raconter ce que lui a vu du film. Moi, j'étais un peu pris de
court. Non, mais j'ai vu ça. Moi,
il se souvient pas. Il avait 8 ans.
Oui, la dernière, je l'ai vu. Je devais avoir 8 ans.
Mais c'est nul. Bon, il faut militer
c'est
en
nul,
fait
c'est
pour
nul.
Que
moi,
ce
au
film
moins,
soit
je
ressorti.
L'ai vu, moi.
Mais moi, j'étais dans un endroit où on captait la 1, la 2, la 3, et point final, la 6, ça arrivait, et c'était
tout rouge. Quand j'avais 8 ans, il n'y avait pas encore la 6.
Elle n'existait pas en 68.
Mais en 68, j'étais pas née.
Moi non plus.
Et le film, il passait pas à la télé.
Enfin bon, quoi. Donc, ce film, à première vue...
Non, enfin bref, pour être dans le thème.
Ah, pardon. Ce film a remué pas mal de trucs. Alors, quand même, je tenais à dire que donc ce film a inspiré, comme disait Numa, donc le fameux petit système qui permet de débrancher les télés. C'est donc Jean Poiré dans l'ORBF qui avait une clé pour empêcher les enfants de regarder la télé. Et ça viendrait de là, c'est ce que Mocky imagine.
C'est ce que Mocky dit,
c'est que grâce à lui, en fait, les États-Unis ont été
influés. Comme Moby Dick un peu.
À peu près, ouais, pas loin, ouais. Ont été
aucun
influencés
rapport.
Et ont inventé leur grand machin pour surveiller la télé. À mon avis, c'est parce qu'il y a des lobbies contre la télé aux États-Unis qui sont un peu énervés à un moment. Bon, pas enlever le mythe.
Non, on n'enlevons pas les mythes.
Ah non, on n'enlevons pas les mythes, ça serait dommage. Et alors ce film aussi a été inspiré d'un fait divers, quand même il faut le savoir. Et alors ça, ça m'a fait hurler de rire de le lire. Si si, la nuit dans un petit village, donc aux alentours de 68 déjà, il y avait pas mal de gens qui étaient énervés.
C'est où ça, 68
C'est en
un
mai.
Petit, t'as dit un petit village aux alentours de 68.
Alors, aux alentours de mai
68.
Je connais
7, 3.
Enfin bon, j'imagine, je ne sais pas si ce type, l'instituteur à l'époque, qui était très énervé contre la télé, existait déjà, mais là maintenant il doit être fou, il doit avoir une collection, il doit avoir des bouquets de paraboles dans son appartement, ça doit être très joli, parce qu'en dans ces eaux-là, il était assez énervé, suffisamment du moins pour, avec son pote gymnaste, aller cueillir toutes les antennes dans les villages, dans le village en fait, toutes les antennes du village, clac clac, la nuit, découpait à première vue. Ça doit être assez, assez sympa dans son charme. Le salon, il doit avoir des jolis bouquets blancs. Enfin bon, quoi.
Enfin, en même temps, il y en a qui font des œuvres d'art avec ce genre de trucs, qui vendent une fortune. Hein, donc,
Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en plus, les antennes, c'est pratique pour étendre le linge.
Ah ouais, ouais.
Ouais, ouais, moi, j'ai regardé par ma fenêtre, visiblement, ils en ont oublié.
Des bouquets de paraboles comme ça et tout, ça pourrait être joli, si tu veux. Ça fait une œuvre d'art décorative, ça fait une bonne action et tout, plus de télé, machin.
Ça fait de grandes assiettes pour faire des paella géantes et tout. Le cormoran, l'albatros en train de s'écraser la gueule sur la plage.
Ouais, ça doit être ça avec caramel mou, ouais. Ouh, voilà, donc ce film qui franchement a l'air quand même de dépoter assez fort. Moi, j'aurais aimé que David nous en parle un peu plus des souvenirs qu'il a de ce film, parce que moi, ce que j'en ai lu,
si moi j'ai des souvenirs de ce film.
Ça m'a l'air mais incroyable, quoi. Bourvil, absolument incroyable dans son rôle de professeur, mais complètement halluciné et très fâché contre la télé. J'ai vu quelques images, je peux pas vous les décrire.
Je me souviens particulièrement de ce film parce que je l'ai vu, j'étais tout gamin, je devais avoir 7-8 ans. Et ça m'a traumatisé parce que moi j'aimais beaucoup la télé déjà à cette époque-là, et de voir ce type en train d'empêcher tous ces gens de regarder la télé, parce que c'est tout Paris à la fin, en fait il faut pas le dire, mais il s'attaque à l'émetteur de la Tour Eiffel, donc je l'ai pas dit, pour que tout Paris ne puisse plus capter la télé. Et moi j'étais traumatisé, j'ai dit, on va plus pouvoir regarder la télé, parce qu'en plus moi je croyais encore à l'époque que c'était vrai ce qu'on voyait dans les films.
Mais c'est vrai.
Mais je savais pas que c'était Jean-Pierre Mocky. Par contre, je savais que c'était Bourvil, parce que déjà.
Déjà, tu savais.
Mais voilà. Mais c'est vrai. Tout est vrai. C'est Boris Vian qui l'a dit.
Bah oui, tout
quand,
est vrai.
Quand on imagine un truc, c'est vrai puisque on l'a imaginé.
Moi, et donc je m'en rappelle pour ça, parce que j'ai été traumatisé. Vrai. Sinon, je m'en souviendrai pas si non, ça avait été un film.
Moi, ce que je trouve extraordinaire, parce que j'adore l'univers de Mocky et ce qu'il met, en fait, les tripes qu'il met dans ses films. Quoi. Ça prend des proportions incroyables. Et moi, je suis sûr, quand j'ai commencé à retoucher cette affiche avec Bourvil et Blanche, et que j'ai vu en dessous un film de Mocky avec la grande lessive, et moi j'imaginais une grande lessive cérébrale. Et alors là, je remercie Mocky, parce que en fait le titre du film lui plaisait pas. Au départ, il voulait que ça s'appelle Le Tube à première vue, comme le type cathodique. Ou alors en second titre Les Pirates, ce qui explique un peu plus les affiches. Mais la grande lessive, en fait, du coup, ça tombait bien, parce que j'étais là pour une fois pile poil dans le thème, ce qui est pas tous les jours.
T'étais pile poil dans le thème sur le titre.
Sur le titre. C'est pas de ma faute si Béa n'est pas là, mais vraisemblablement ce soir Béa nous parlait de la grande lessive cérébrale à cause de la télé aussi, quoi.
Bah peut-être.
Peut-être.
Ah bah, oui, peut-être. Enfin,
on ne le saura jamais puisque elle n'est pas là.
Voilà, c'est dommage.
Qui saura?
Qui saura? Qui saura?
Qu'est-ce
donc mais c'était ta conclusion?
Non, ma conclusion c'est que si les franchement vous aussi vous êtes un minimum curieux et que vous aimez les films de Mocky et que vous aimez les films qui attirent la controverse et tout, ce film est sorti en DVD en mai 2004. Alors avec des suppléments, DVD, revue de presse, le procès certainement. Alors à propos de la RBF, l'ORBF, pardon, avec des photos, des interviews, gna. Et alors ce qui m'a un peu chagriné.
En même temps, si tu te pointes au vidéoclub de ton quartier et que tu demandes la grande lessive, je pense qu'ils vont faire une drôle de tête parce que sortie de Star Wars et autres machins,
eh bien,
on se tape
ils
dessus.
Ils se démerdent.
Ils connaissent pas.
Oui, mais c'est leur boulot de nous trouver les
ça
trucs qu'on
devrait
veut.
Être leur boulot, mais bon.
De nous trouver le film
écoute,
qu'on veut.
Écoute, moi
voir.
J'ai trouvé ça sur internet. C'est disponible sur internet. Ils te disent qu'ils peuvent te vendre le DVD, gna. Et alors, ce qui me fait. Ouais, absolument. Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'en revanche.
C'est le deuxième titre.
Il signale une image qui est passée dans les couleurs. Alors, c'est vrai que...
Et là, ton sang ne fait qu'un tour.
Mon sang ne fait qu'un tour parce que, bon, je suis pas un grand spécialiste de l'image, machin, tout. Si j'étais un grand spécialiste
oui,
de l'image,
quand même,
ça serait.
Un peu.
Mais un minimum. Et je sais que dans ces années-là, les couleurs cinéma sont pas très solides. Mais quand même, je sais que c'est surtout Eastman Color qui est très malheureux. Et là, j'ai trouvé que le film est en procédé Technicolor. Donc, ce qui me fait mal aux tripes, c'est que je ne sais pas comment les types ont restauré ce film. Et j'aimerais le savoir parce
mais
que vraisemblablement,
ils l'ont pas restauré. Ils ont trouvé une vieille cassette.
Il
et
a
hop,
été,
et
voilà, il a été. On a fait un DVD à partir d'un élément de merde. Et ça veut dire que si vous allez acheter ce film en DVD, vous allez le retrouver avec un DVD avec une image caca.
Et cette image caca est voulue par le distributeur qui n'a pas voulu faire l'effort
d'aller un peu plus cher,
peu.
Qui a pas estimé que ce film valait plus cher que ça.
Il a juste voulu gagner de l'argent, vous voudriez dire.
Voilà,
bah oui, c'est
en
ça.
Disant poum poum, la sortie du DVD correspond avec la sortie du Furet, le premier film de Mocky qui est sorti dans vachement de salles. Je crois qu'on a vu un truc genre 150
c'était
copies.
C'était avec De Funès.
Non,
avec
ça,
Jacques Villeray.
De Funès, il est mort depuis longtemps.
Avec Jacques Villeray, Michel Serrault, Jean Poiret.
J'avais compris le premier.
Le dernier Mocky.
Avec Villeray, Poiret, Serrault. Et donc forcément, comme il y avait Villeray, Poiret, Serrault...
Villeray, Serrault, Poiret, il est mort.
Il était mort à ce moment-là.
En 2004, oui, Poiret, il est mort depuis un moment.
Oui, mais bon, il aurait pu être dedans.
Non, avec Villeray, Serrault...
Il était prévu dedans, mais en fait, il a eu un empêchement. Voilà, c'est tout.
Mais bon, donc on peut penser que les
tout... Il tournait avec Spielberg, je crois.
Le tout est concomitant, et c'est quand même dommage, parce que, je sais pas, moi, d'après ce que j'ai... Oui, t'as vu ça, on utilise des mots savants dans Quoique.
Oui, j'aime bien.
Parce que ce film, à mon avis, valait beaucoup mieux que ça, et moi, ça me fait vraiment mal au cœur de penser que les gens pourront dire « Bah, tu vois, c'est ça, les films anciens et tout, c'est toujours un peu sale, c'est toujours un peu crapaud, tu vois, maintenant, bientôt, on dira les films anciens, tu les reconnais parce que les images sont roses. » Non, les images ne sont pas roses, c'est une question de sous, c'est une question de vouloir. Moi, j'ai entendu parler d'un type qui restaure des films à partir de VHS parce que c'est beaucoup moins cher. C'est écœurant. Pour moi, un film, ça mérite quand même plus que ça. Et moi, je suis désolée, les films de Mocky sont des films à petit budget parce que ce type n'a pas le choix. Et ce sont des films qui en disent très long.
Ce type qui copie des films et qui les vend à partir de VHS s'appelle René Château. Moi, je peux le dire parce que moi, j'en ai rien à foutre.
Et il les vend au même prix que les autres.
Lessivons nos vieux films pour leur redonner.
Il faut le dire que Monsieur René Château est un fumier et qu'il prend. Non, mais il prend les gens qui aiment le cinéma pour des gogos. C'est tout.
Il faut
le dire. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Il veut faire du fric et il en fait. Mais non.
Donc,
René. Non, c'est vrai quoi. Merde. Les films méritent mieux que ça. Et moi, je milite. Enfin, je pense qu'on devrait tous, à partir de maintenant, de cette émission-là, écrire des lettres à Mocky pour qu'il nous ressorte son film dans son cinéma au Brady. Comme ça, on ira tous regarder La Grande Lessive grand coup et on ira arracher les antennes de télévision avec lui, avec plaisir.
Jean-Pierre, si tu nous écoutes,
viens prendre un verre avec nous.
Et un tonnerre d'applaudissements après ce coup de gueule. Là, on va être obligé de recommencer l'enchaînement parce que je me suis planté, j'ai mis deux fois le même jingle. Donc il faut recommencer.
Lire,
donc on recommence. Et un tonnerre d'applaudissements après ce coup de gueule. Maintenant, nous allons passer, après l'histoire, le cinéma, nous allons passer à la littérature.
Et au cinéma.
La littérature.
La littérature, avec Numa.
Et au cinéma.
qui va nous parler
de l'arbre du dieu pendu
de
Alejandro Jodorowsky. Je l'ai bien dit. Hein.
Très bien. On pourrait même s'arrêter là tellement c'était beau. C'était Mais beau. Vas-y, continue.
Tu m'enlèves la musique ou pas?
Je la baisse un petit peu.
D'accord. Parce que c'est là, ça devient chiant. Là.
Pourquoi il a droit à un fond musical, lui, pendant sa chronique?
Bah, elle aussi.
C'est un favoritisme total, là.
Tout à fait. Donc, je pose mes ustensiles.
Vas-y, pose.
Moi, j'aime bien les blancs.
Bah, il n'y en a plus.
Martini.
L'arbre du dieu pendu. Donc un livre d'Alejandro Jodorowsky qui a été traduit de l'espagnol par Maria Hernandez et René Solis. Donc c'est publié, donc je l'ai dit tout à l'heure mais je vais le répéter, aux éditions Métellier. Donc déjà on voit que le travail de Madame Métellier, ou Mademoiselle, non ça doit être Madame, donc déjà elle a mis deux traducteurs, dont un qui est bilingue et l'autre qui est bilingue, ce qui est bon signe aussi. Mais un bilingue d'espagnol de naissance visiblement et l'autre français de naissance.
De langue maternelle en fait on va dire, plus que de naissance.
On peut dire ça aussi. Et c'est mieux dit parce que comme ça on reste dans le thème. Donc
mais tu m'avais dit, parce que tu m'as expliqué ça avant l'émission et tu m'as dit que tu le dirais pas pendant l'émission et que oui, j'avais droit à des infos que les auditeurs n'auraient pas.
Oui mais en fait je lis quand même parce que je pense que c'est une information qui vaut le coup pour dire que
cette dame c'est un très bon éditeur.
Oui voilà, c'est un très bon éditeur et on trouve chez elle plein de bouquins, les livres c'est elle qui les choisit, enfin plus exactement les manuscrits et donc c'est un très bon travail, donc les éditions Métellier, il faut y aller en général même voire même tout le temps, on se fait pas duper. Donc L'arbre du dieu pendu, c'est l'histoire fantasmée de la famille de l'auteur quittant les ghettos ukrainiens pour débarquer à Valparaiso. Donc ce roman a été écrit en 1992.
Ça vous intéresse pas les filles? Vous savez ce qu'elles font? Alors je fais une petite interlude pour nos auditeurs. Les filles sont en train de se regarder en faisant des grimaces pas possibles, elles se tirent la langue.
Oui, et on n'a pas besoin de nos yeux pour écouter Numa.
Imperturbable.
Moi je suis imperturbable. Bah, c'est un métier. Donc ce roman a été écrit en 1992 par un Chilien né en 1929, Jodorowsky, Alejandro.
Donc il avait quel âge quand il a écrit son bouquin?
Bah plus.
Plus, visiblement plus, puisqu'il était né. Et c'est en 1953 qu'il quitte le Chili et qu'avec son théâtre de marionnettes, avec lequel il a parcouru en tous sens le Chili, et qu'il prend la direction de Paris où il travaille avec le mime Marceau.
Et le Chili, ça fait péter.
Oui, mais ça, c'est quand on met de la viande.
Puis en même temps, c'est pas facile de faire mimer des marionnettes.
À des haricots.
Ouais, aussi les haricots, ouais.
D'accord. Donc pour lequel, donc c'est pour le mime Marceau qu'il écrit donc quelques.
Faut se reprendre là parce que sinon je fais une pause musicale pour que tout le monde
ouais,
respire.
Ouais.
Hein.
Oui, parce que ça commence à devenir. Hein.
Donc, si ça fait chier, tu passes les demeurés.
Hein. Ouais.
Donc
pour le. On l'aurait voulu après. Hein.
Attends, donc c'est pour le mime Marceau qu'il écrit quelques pantomimes parmi les plus célèbres. Et oui.
Ah.
Et ben oui quand même. Et donc 5 ans plus tard, il quitte la troupe parce que ça le fait chier visiblement. Et il devient peintre en bâtiment.
Ah.
Et fréquente les surréalistes. Et c'est là qu'il fait la connaissance de, devinez qui?
Topor.
Non.
Arabal.
Picasso.
Maurice Chevalier.
Ah, c'est un très bon peintre.
Voilà. Et donc celui-ci l'engage afin visiblement de dépoussiérer son spectacle. À croire que celui-ci en avait besoin à l'époque. Enfin, on sait pas. Moi, j'y étais pas.
On l'a pas vu. Hein.
Mais on imagine. Donc en 1962, avec Roland Topor. Hein. Et ben oui, c'est un mariage entre Topor et Arabal. Ça fait Topar-Arabal et.
Et Ara Topor.
Ouais, voilà. Donc, avec Roland Topor et Fernando Arabal en 1962, il crée le mouvement Panique en l'honneur du dieu Pan.
Pan.
Pan dans ton cul.
Ah, j'ai entendu un truc extraordinaire.
C'était oui, mais
la
vas-y,
chanson,
vas-y, vas-y.
Vas-y. La chanson, tu sais, avec les oies, la merde, on voyait passer les oies sauvages, là, vas-y, c'est, tu sais, ce truc que je déteste.
Ah, de Michel Dépêche.
Oui, oui, oui.
Ah.
Et alors, vas-y, va, refais le cerveau, là.
Attends, je l'ai pas en tête.
Je...
par-dessus le toit.
Ah non, non, non,
c'est le nuage.
Juste pour ça. Écoute, moi qui déteste cette chanson, imaginez que toutes les perdrix étaient dégommées d'un coup, ça m'a fait un bien fou. Pourtant, je suis contre la chasse. Hein, mais alors là, ça m'a vraiment soulagé.
T'aimes pas Michel Delpech ?
Dans ma 104, hein, à fond, quand j'ai pas le choix et que c'est moi qui conduis, non.
C'était pas de ma faute. Donc, pour précision, pour ceux qui connaissent pas, donc Roland Topor, il est
On en a déjà parlé, il me semble.
Bah oui, mais pas tout le monde. Puis d'ailleurs, visiblement, ils n'écoutent pas toutes les émissions.
C'est possible.
Donc, pour précision, Roland Topor était dessinateur, romancier, auteur de théâtre, créateur de téléchats, notamment.
Fumeur de pipe.
Mais pas tout seul. Amateur de cigares, de pipes et de bons vins. Voilà. Donc, en résumé, un artiste pluridisciplinaire. Je répète, pluridisciplinaire.
Plusieurs disciplines, en fait.
Voilà. Arabal, quant à lui...
Mots savants, ce soir que de mots savants, mes amis.
Arabal, quant à lui, est auteur, metteur en scène de théâtre, réalisateur, et tout cela malgré une toute petite taille. Ce qui n'a évidemment rien à voir avec le propos. Lui aussi est un artiste...
Pluridisciplinaire.
Complet.
Avec au moins 5 i.
Au talent multiple. Complet.
Non.
C'est pas l'artiste, c'est l'athlète qui est complet.
Ah non, s'il n'avait pas du talent partout.
Ben je sais pas.
Ah.
Enfin j'imagine. Un peu. Donc les amateurs de bande dessinée donc le connaissent donc Alejandro Jodorowsky plutôt pour ses qualités de scénariste donc notamment sur les BD de Moebius où il a travaillé Lincal avant Lincal après Lincal. Oui ben j'ai un peu de mal avec Jiménez aussi donc la caste des métabarons avec Book Bonesur etc.
Le mec avec sa plume là sur la tête merde enfin sur une craie une queue.
C'est Wapiti, le petit indien.
Non, un type qui est. Comment il s'appelle ? Alefto. Le mec qui est manchot, en fait, qui récupère des membres au fur et à mesure, qui est manchot aveugle, nanana, qui a une tresse avec une plume qui coupe. Comment ça s'appelle ? C'est pas Lincal.
Ce n'est pas très clair.
Ah oui, mais je pense que les lecteurs l'auront reconnu. Merde, j'ai bouffé son nom.
Oui,
si ça
oui,
me revient,
oui bien sûr,
les lecteurs
l'auront reconnu. Donc, je rappellerai bien évidemment que Jodorowsky a réalisé à ce jour. 7 films, dont
bravo.
Un est disparu, et que le 8e aurait dû être, mais que Hollywood l'a trouvé trop chilien ou trop français pour le réaliser.
Dune. Ou trop français.
Ou trop chilien.
Trop mexicain,
Dune.
En fait.
Dune.
Trop mexicain.
Il a travaillé avec Moebius et d'autres sur une adaptation de Dune.
Et c'est pas lui qui l'a eu.
Et c'est pas lui qui l'a eu parce que visiblement il était trop chilien ou trop français ou trop pas américain.
Ou pas assez,
mexicain,
ouais.
Tu m'as dit que les Américains le prenaient pour un mexicain, que c'était assez problématique.
Oui, c'est lui qui le disait. Hein. C'est lui qui le dit.
Non, mais
ne
disons pas trop de mal de nos amis américains.
Non, tout à fait. Mais là, on dit juste du mal d'Hollywood, hein, ce qui est totalement différent.
Il vaut mieux préférer Bollywood, qui est beaucoup plus intéressant cinématographiquement, beaucoup
non,
plus drôle, musicalement,
quand même,
etc. quoi.
Il y a quand même actuellement d'autres endroits pour faire des films aux États-Unis que Hollywood. Donc, il est aussi auteur de pièces de théâtre. Qu'il met en scène avec sa troupe familiale et que malheureusement son œuvre romanesque et là j'en viens est très peu connue.
Et c'est bien dommage.
J'ai retrouvé ma BD, c'est Alefto, le lama blanc.
Ah, le lama blanc, oui, j'ai oublié le nom de l'auteur là. Enfin, je pourrais retrouver dans mes fiches.
Eh bien, trois fois bonsoir.
Mais elles ne sont pas très bien classées. Voilà, donc le livre, le roman d'Alejandro, on va l'appeler Jodo. Hein.
Ouais,
hein,
ça évite les fautes.
De l'auteur,
Jodo.
Que j'ai cité au début.
Non, Jodo, ça évite de se planter entre les Joro et les Jodo.
Oui. Voilà, donc dans le livre de l'auteur, qu'il a...
Non, vas-y, continue.
Il a écrit ce livre à partir de l'arbre généalogique de sa famille.
Ah.
Voilà, et c'est comme ça qu'il crée une véritable légende mystique, louvdingue, extraordinaire, un petit peu facétieuse.
Jodorowskaïenne, si j'osais dire.
Tu peux oser.
Jodorowskaïenne, oui, j'ai un poil dyslexique quand même.
Voilà, donc l'auteur retrace l'histoire des siens, donc juifs des ghettos ukrainiens, débarqués en Argentine en pleine dépression, et révolte sociale.
Déjà à l'époque.
Il était déprimé.
Bah oui.
Pas lui, mais ses pays, oui.
Voilà, donc il s'attache à décrire à la fois la branche maternelle et la branche paternelle de sa famille. Donc son grand-père, qui s'appelait d'ailleurs aussi
Alejandro Jodorowsky.
Donc enfant, découvre l'entremonde, où se trouve également l'âme d'un rabbin, le Rébé, lequel lui demande s'il ne peut pas l'adopter. Donc, et c'est à ce moment-là que le Rébé et lui habitent le même corps. Je simplifie un petit peu parce que c'est assez compliqué dans le livre.
Jodorowsky grand-père ou le Jodorowsky...
Laisse-moi continuer. Là, nous sommes à Jodorowsky grand-père.
D'accord, c'est Jodorowsky grand-père habité
si
par l'âme du
aussi
rabbin.
Un petit
qui est habité par l'âme
du
Rébé.
Mais attends, mais c'est super compliqué son affaire.
Voilà, puis l'âme du Rébé vient l'habiter et viendra habiter ses descendants de génération en génération jusqu'à Alejandro Jodorowsky lui-même, l'auteur du livre.
Ce qui explique beaucoup de choses en fait.
Ah bah oui, ça explique un petit peu...
Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses. Ensuite, Alejandro, le grand-père, sera demandé en mariage par Teresa Grossman. Je m'en doutais un petit peu.
Teresa comment?
Grossman.
On peut pas voir le truc écrit des fois.
Ouais, vas-y, on va épelle. Vas-y, épelle et parle dans ton micro, toi, là-bas.
Ah oui, j'essaie. Attends.
Ça fait grossement.
Ouais,
oui, mais, oui, mais comme c'est d'origine juive, j'imagine que ça doit être
ça doit être un truc genre Grossman ou un truc comme ça,
ouais,
Grossman.
Ouais, bon, je suis désolé d'avoir...
Elle se reconnaîtra.
Ben,
littéralement, ça fait plutôt Groisman, en fait.
Oui, bon, ça fait Groisman, donc Groisman. Donc, je suis désolé pour ma prononciation. Tiens, il manque une majuscule sur ma feuille. Donc, ils auront un enfant, Joseph, puis deux filles, Lola et Fanny. Mais Joseph... merde, là faites attention, c'est super triste là. Mais Joseph mourra dans l'inondation due à la crue du Nièvre. La pauvre Teresa, bouleversée à jamais par la mort de son fils, se mettra à maudire Dieu. Oh Dieu, après ce que tu nous as fait, tu mérites d'être pendu. Et encore, un peu plus loin, tu es sans pitié, tu es un monstre, tu as créé un peuple élu, rien que pour le torturer, ça suffit, je te maudis, je t'efface, je ne t'écoute plus.
Dis donc, s'il avait attendu ça pour le comprendre, parce qu'avec le serpent d'airain, moi je trouvais que c'était quand même assez cool, quand tu mon peuple, tu m'as trahi, paf, pan, un serpent d'airain sur la gueule. Moi je trouve que c'est quand même assez beau comme religion.
Enfin bref, en gros... Teresa, elle en a gros sur la patate et elle en veut un petit peu aux dieux.
Ça se comprend. Moi aussi. Hein. Moi et aussi, oui. J'irais lui casser la gueule hein, si j'étais dans son cas.
Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Donc la branche...
paternelle.
Putain, merde, il y en a qu'une qui a suivi. Non, c'est paternelle, bravo.
C'est pas qu'il y en a qu'une qui suit, c'est qu'on a qu'un micro pour deux.
C'est pas vrai, tu t'es pas rapproché, j'ai répondu
voilà.
La première.
Ouais, tout à fait. Donc, et maintenant, la branche maternelle, donc laquelle est tout aussi extraordinaire. Donc, parce que là, je vous ai évidemment juste donné un aperçu, parce que ça dépote quand même sévère du ciboulot. Donc, pour la branche maternelle, je raconterai juste que Christina Prulansky, qui est l'arrière-grand-mère de Sarah Felicidad, la mère d'Alejandro
Jodorowsky,
l'auteur, donc fantasma à son époque sur le tsar Alexandre Ier. À un point paroxysmique, tel qu'elle sera persuadée que c'est le tsar en personne qui, lors de crises de folie, violera ses animaux dans son parc.
Et ça, oui. ça nous laisse sans voix. Hein.
Ah, bah oui, j'entends. Et oui, ça au moins, ça vous la bouche.
Ça, moi, avec ma grande lessive, je peux toujours aller me rhabiller, laver mes caleçons, il n'y a pas de problème. Hein.
Voilà, et donc après, je terminerai maintenant par deux citations. De l'auteur.
Vas-y.
La première. L'arbre généalogique me paraît de première importance. Nous sommes comme le vaudou possédé par tous les personnages de notre arbre généalogique. Je crois que notre famille est comme notre inconscient. On est marqué par elle génétiquement, mais aussi psychologiquement. Ah, ah.
Oui.
Et enfin, celle qui, à mon sens, explique le mieux son travail au niveau du livre. Dans l'arbre du dieu pendu, tous les personnages, les lieux et les événements sont réels. Mais j'ai essayé de transformer et d'exalter cette réalité jusqu'à lui faire atteindre une dimension mythique. Si d'un côté, notre arbre généalogique est un piège qui limite nos pensées, nos émotions, nos désirs et notre vie matérielle, D'un autre côté, il constitue le trésor qui renferme l'essentiel de nos valeurs. Avec ce livre, je n'ai pas seulement voulu écrire un roman, mais présenter un travail qui, s'il a été réussi, aspire à servir d'exemple pour que chaque lecteur le suive et transforme, au travers du pardon, sa mémoire familiale en légende héroïque.
Bah, bravo.
Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie de le lire.
Tu parles des travaux cinématographiques de Jodorowsky, tu parles un peu plus de lui ou tu
peux parce que j'avais pas. Enfin, je peux le faire de mémoire, entendu.
Parce que dans ce cas-là, je vais vous parler rapidement des travaux donc, cinématographiques de Jodorowsky.
Oui, ben moi aussi, je peux le faire.
Non.
Si, parce que moi j'ai vécu une expérience assez drôle comme ça. Imaginez une assemblée de gens qui travaillent dans la restauration de films. On se promène en Pennsylvanie dans un laboratoire. On tombe sur une cassette de El Topo, film a priori mythique de Jodorowsky.
Ça c'est moi qui l'ai dit.
Oui, je demande au propriétaire du laboratoire si on peut emprunter ce film parce que franchement moi j'avais trouvé extraordinaire. Sur ce. Emporté par mon emballement, mes petits camarades me disent ah oui, regardons-le, et nous partîmes 21, nous finîmes 3 devant la VHS.
Donc à savoir que parmi les 7 films qu'il a fait, donc le premier étant Perdu, j'avais que le titre, mais de toute façon comme on peut pas le voir, c'était pas important. Et donc les deux qui sont à voir impérativement, c'est El Topo et La Montagne Sacrée.
Voilà, El Topo, c'est une espèce de western mystique incroyable.
Mais de toute façon, chez Jodorowsky, tout est mystique. C'est une réinterprétation de tous les grands textes religieux. Donc la Bible, la Torah, les sutras, le Coran, donc des textes plus ou moins chamaniques, etc. Et donc tout était réaménagé dans des mythes, ou plus exactement, c'est un endroit où c'est l'homme lui-même qui recherche sa vérité et qui essaye de se découvrir. Et ce n'est pas la religion, ou plus exactement une religion, qui va donner une vérité. C'est l'ensemble des religions, à travers tous ces textes, qui donnera une vérité pour l'individu. C'est ce que j'ai compris. Hein,
et cinématographiquement, ça, c'est intéressant, parce que des trucs comme ça, on n'en voit pas des masses. Et même pour l'époque, on n'en voyait pas des masses faits comme ça, avec une telle puissance.
Mais il faut dire, par exemple...
C'est assez impressionnant. Quand je dis qu'on a commencé à regarder la vidéo à 21 et qu'on a fini à 3... Les gens sont partis les uns après les autres en se mettant la main sur le front en se disant mon Dieu, mais la française elle est complètement déracinée du bulbe. Et plus ça allait, plus ils se disaient mais qu'est-ce que c'est que ce type qui a écrit ce film? Et c'est impressionnant, c'est poignant, ça t'arrache les tripes, ou alors ça t'arrache l'estomac, auquel cas tu vas vomir. Enfin,
il faut parler aussi de Fandoilis. Fandoilis, donc qui est tiré d'une pièce théâtrale d'Arabal. Où les acteurs, donc là c'est très important, où les acteurs ont été réellement torturés et où le sang qu'on voit à l'écran est leur sang réel. Donc c'est-à-dire c'est un cinéma vrai, mais à travers cette bestialité, il apparaît quand même une pureté dans le cinéma et dans l'art. Donc c'est à travers cette bestialité, il ressurgit autre chose.
Ça n'est jamais gratuit.
Surtout
El Topo,
pas,
La Montagne Sacrée, enfin ce qu'on en a vu, ce qu'on a vu d'Arabal aussi, ça n'est jamais gratuit. Il y a toujours
recherche. Et donc en tout cas, dans tout ce que j'ai vu de lui, donc à travers, parce que j'ai pas lu que L'Arbre du Dieu Pendu, j'ai aussi lu évidemment la suite qui s'appelle L'Enfant du Jeudi Noir. Ce qu'on ressent, c'est que c'est quasiment toujours le même thème, à savoir un individu en quête de lui-même. Je sais pas ce que t'en penses, Flo, par rapport à ce que t'as vu
film. Plus qu'en quête de lui-même, si tu veux, moi je reprendrai sur ton histoire du jeudi noir. C'est que quand il parle du jeudi noir, il parle du 29, du jeudi de 1929, et qu'il est, en fait, il y a une espèce d'obsession de mysticisme autour de lui, autour de plein de choses, et en fait comme si rien n'était gratuit. En fait, il n'y a jamais rien de gratuit à aucun moment chez lui.
Mais il part du principe que notre généalogie, c'est-à-dire notre antécédent familial, est en nous, en chaque individu, et que le mal qu'on subit nos ancêtres est encore présent à travers nous. et c'est ce qu'il soigne à travers le tarot. Donc on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est comme ça. Voilà, donc.
D'accord.
Donc en résumé, donc.
Enfin moi pas d'accord, mais d'accord.
Non, ben là moi, ben moi je dis pas que je suis d'accord.
Nous suivrons les prochaines sorties de Tempo, etc. Et je conseille d'aller.
Que c'est un artiste à voir. C'est un des plus grands artistes du siècle dernier. D'une part pour sa pluridisciplinarité, qui pour moi est. Et pour l'avenir, c'est-à-dire que de plus en plus, on aura des artistes comme ça.
Moi, je conseillerais de voir ces films-là, parce que, en fait, dans ses œuvres, de les lire, de le voir, etc., c'est un type qui prend tout d'un coup conscience du côté exceptionnel, en fait, de ce qu'il traverse. En fait, il y a des gens qui nous ont décrit des choses, etc., pour décrire. Et lui, il prend conscience de quelque chose qui est exceptionnel, en ce sens que c'est la première fois que quelqu'un prend conscience de tout ça. Et alors, ça prend, mais des dimensions incroyables. Et moi, je pense que ça vaut vraiment la peine, juste, pour prendre conscience de justement de ces dimensions incroyables. En fait, on a l'impression, après, c'est ce qui est bien, voyant El Topo et tout ce qu'on a cité de lui, enfin, ou d'Arabal ou autre, c'est que tout d'un coup, tu pourrais supporter n'importe quoi parce que tu te dis que finalement, tu relativises vachement. Il y a tellement de puissance dans ce qu'il décrit. C'est un truc carrément transcendant, quoi.
Et lui, ce qu'il demande, c'est une recréation de notre passé. Donc, faites de la vie de vos ancêtres des mythes. Recréez-les, enjolivez-les, dans le sens négatif ou pas, mais réinventez. Voilà. Donc l'arbre du dieu pendu. Donc c'est aux éditions Métellier. Ça a été publié en 1996, suivi de l'enfant du jeune dit noir. Donc toujours chez Métellier, publié en 2000. Et donc ça c'est ensuite, c'est la suite de sa chronique familiale en fait, où c'est lui enfant à travers ses deux parents. Donc c'est beaucoup plus proche. Voilà.
Eh ben le poème.
Ah. Comme ça.
Pourquoi tu veux un petit interlude?
Ouais, parce que sinon on va changer de rythme d'un coup dans l'autre et ça va faire
un tonnerre d'applaudissements pour
Numa. Tu peux
pas
nous mettre les demeurés en interlude?
Un tonnerre d'applaudissements, faut que tu applaudisses. Et bien maintenant, comme nous le disions avant, nous allons passer au poème célébrissime et tant attendu poème de Numa. Oui.
Oui.
Tu peux y aller.
Ah.
Nous t'écoutons. Dans un silence de mort.
Mes clés de bagnole. J'ai laissé tomber mes clés dans le poêle à bois. La caravane passe. Ma voiture... La tire par devant, les clés de ma tire s'envolent avec elle, de poulet. Cuit, 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 fais le poil, tes clés sont parties, ta caravane avec tes cigares aussi.
Bravo. Je n'ai que deux mots à dire, bravo.
Nous sommes en total Jodorowsky atmosphère.
Ah ouais, je peux le refaire. Hein.
Non, c'est pas la peine, ça sera trop d'émotions d'un coup. Bon, vas-y, alors là, avec un jingle approprié, tu démarres juste à la fin du jingle.
D'accord, je suis prêt.
Top.
I'm ready. J'ai laissé tomber mes clés dans le poêle à bois. La caravane passe. Ma voiture la tire par devant. Les clés de ma tire s'envolent avec elle. De poulet. Cuit, cuit, cuit. Fais le poil. Tes clés sont parties. Ta caravane avec tes cigares aussi.
Bravo, bravo.
Je peux le refaire.
Non, ça suffira là. Hein.
Il faut pas abuser des bonnes choses.
Non, je comprends.
Un petit coup de Sylvie sera très bien en fait.
Tiens, j'avais noté un truc quoi. À propos de Moki. Ouais. Tu l'avais pas noté toi?
Quoi? Qu'est-ce que tu as dit sur
ma super phrase de hier que je t'ai dit?
Non, vas-y.
Donc, Moki, quand il gueule, bah, il n'a pas forcément raison.
Oui, c'est vrai, il n'a pas toujours
ou
raison,
tort.
Mais c'est sincère.
Donc, c'est con comme phrase. Hein.
Oui.
Voilà, bah, très bien. Donc, un tonnerre d'amodisplan. Eh bien voilà, cette émission est finie.
Déjà ?
Eh oui, oui, oui.
On a droit à un Sylvie final quand même.
Oui, bah, ah, évidemment. D'accord. Donc, magnifique émission, hein, comme d'habitude. Peut-être même encore mieux que d'habitude. Hein.
Bah, mieux que d'habitude, non, on a viré les gens qui sont mauvais.
C'est ça, bah, essaie de les faire revenir maintenant. Hein. Comment se tenir au courant de la télé maintenant, hein.
Heureusement qu'ils ne l'écoutent pas. Eux aussi.
Et ils sont pas cons. Hein.
Non, bah non, quand même.
Un petit peu quand même.
Donc, comme d'habitude, je remercierai monsieur Yann Beaujouan qui a écrit, composé, joué les jungles. Hein, celui-là par exemple.
Eh bien, c'est lui.
Toi, ça c'est lui. Celui du début, là, celui-là.
C'est lui aussi.
Ouais. Avec la porte, là.
Avec la porte, il n'arrive pas à fermer.
Il y a une porte, un moment.
Ça. Voilà, et bien, il n'arrive pas à la fermer.
Il y a des fissures. Ouais. Puis tous les autres.
Oui, oui. Et si tu pouvais nous en mettre des qui changent un peu et tout, pour nous prendre des pourvus, ça serait encore plus drôle, en fait.
Il y en a un. Il a fait une petite chanson aussi, qui a longtemps qu'on n'a pas écouté. On va l'écouter.
Ah oui, quand même.
Quand tu vas prendre ta douche et que t'oublies ta serviette, tu trembleras de partout. Et petite sœur, ta quéquette.
Voilà.
Bien, merci Yann.
Hein, comme quoi, on n'est pas si mauvais que ça, Dumas.
Je
hein.
peux l'avoir en intro sur mes chroniques maintenant, s'il te plaît.
Non.
Allez.
Non, c'est une chanson pour rire et. Comment dire. Tu nous fais pas rire.
Et pour rire. Un petit peu quand même, hein.
Si, des
ça,
fois.
Ça, c'est bien fait, c'est pour mes gros coudes, ça.
Voilà, ouais. Tiens.
Gros coudes, gros melon, gros genou.
Donc, si l'émission a été mauvaise à cause d'Ariane, n'hésitez pas à nous le dire.
Et si c'est à cause des autres,
c'est pas la peine.
Non, c'est la faute à Ariane.
Voilà, c'est la faute à Ariane. N'est-ce pas, Ariane ?
Ouais, puisque vous le dites, c'est forcément c'est ça.
Bah oui, bah oui. Sinon on vote. Parce que voilà. Nous,
alors
sinon,
pour Ariane, votez le bibibididi 1 et contre Ariane, bibibididi 1.
Parce que nous, on est pour la démocratie à condition qu'elle n'écrase pas les minorités.
Non, il ne faut pas écraser les minorités.
Voilà. Donc on se retrouve le mois prochain, en avril. Et on ne se découvrira pas d'un fil.
Ah non.
Le prochain thème de l'émission sera
la vieillesse,
quelque chose.
C'était assez drôle ce que
âge.
Tu disais, pas le troisième âge, l'euthanasie, ça me plaisait bien, oui. C'est comme thème, c'était assez
la gérontologie, c'est bien aussi, non.
Enfin, les petits vieux, quoi.
Ou le vieux.
Le vieux.
Ou la vieille, la ménopause,
oui,
on pourrait faire.
Ça changera du jeune, après Bagou, on aura Kung Fu comme
Nous avons étudié les vieux.
Nous aurons Serkou.
Non mais je pense que de dire les vieux c'est mieux parce que maintenant les vieux vivent tellement vieux qu'il y a le troisième âge c'est dépassé maintenant quatrième, cinquième âge,
sixième. Pas nous hein. Ouais. Donc on peut le dire parce que nous on fume, on boit,
on fait plein de trucs. Donc, ça m'étonnerait que
on fait tout pour faire baisser la moyenne.
Vu ce qu'il y a sur la table, ou on fait jeune calmement ou on s'arrête avant. Hein.
Ah ben. Bah,
peut-être qu'on sera calmé avant.
Ouais. Donc voilà et ben et bien. Eh bien.
Ben Sylvie.
Voilà, c'est la fin. Donc, eh ben, on va recommencer. On va recommencer par finir.
Ah ouais.
Avec
bien.
La fin.
Ah ouais,
du début.
C'est bien, ça, la fin du début.
Voilà. Donc un tonnerre d'applaudissements pour cette magnifique émission. Au mois prochain. Au revoir. Un tonnerre d'applaudissements. Je m'appelle Sylvain Demi, j'ai rendez-vous avec Sylvie, j'attends au bistrot les amis. Je suis en avance pour la laverie, pour passer le temps je me prends un demi, pour passer le temps je me prends un demi. Sylvain, Sylvie, Sylvia, au rendez-vous Sylvain. Sylvie, Sylvain, Sylvia. Sylvie, Juju, Sylvain, Juju est venu, Sylvia fut tout émue de Juju. Sylvie rougit, Juju fut tout émue aussi. L'appel de la laverie, je triais tout avec Sylvie, le blanc fragile, le noir aussi. La vigilance, une heure et demie, pour passer le temps, je me prends un demi, pour passer le temps, je me prends un demi. L'appel du train de nuit, j'ai sauré tout avec Sylvie, la vente au bistrot, les amis. Coexistence, une heure et demie, pour passer le temps, je me prends un demi, pour passer le temps, je me prends un demi. Sylvain, Sylvie, Sylvia, au rendez-vous, Sylvain. Sylvie, Sylvain, Sylvia. Sylvie, Juju, Sylvain, Juju est venu. Sylvia fut tout émue de Juju. Sylvie rougit, Juju fut tout émue aussi. Patin, Sylvie, j'essaierai tout avec Sylvie, j'attends au bistrot les amis. Sur une planche, une heure et demie, pour passer le temps, je me prends un demi, pour passer le temps, je me prends un demi. Je me gèle à la mairie, je me marie avec Sylvie, on a racheté la laverie. Je trie mes slips, chaussettes aussi, pour casser le temps, je me prends un demi, pour lasser le temps, je me prends un demi. Sylvain, Sylvie, Sylvia, au rendez-vous, Sylvain. Sylvie, Sylvain, Sylvia. Sylvie, Juju, Sylvain, Juju est venu. Sylvia fut tout émue de Juju. Sylvie rougit, Juju fut tout émue aussi. Thank you.